affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Nous vous remercions de votre fidélité à notre écoute. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous tient tous particulièrement à cœur, celui de la conservation et de la transmission des savoirs. En effet, après les émissions consacrées à la bibliothèque Mazarine et au cabinet des livres du château de Chantilly, nous allons évoquer l'histoire non moins riche, l'histoire, les missions et les trésors de la bibliothèque de l'Institut de France. À cette fin, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Mireille Pastoureau, qui connaît mieux que quiconque cette bibliothèque prestigieuse, puisqu'elle en a assuré la direction pendant 2 décennies, avant de prendre tout récemment sa retraite. Nous sommes heureux de la recevoir, car elle a servi avec passion cette institution, dont la création coïncide avec celle de l'Institut, et surtout parce qu'elle l'a dirigée dans une époque de mutation. La nomination de Mme Pastoureau date en effet de 1993, et elle coïncide donc avec l'essor des technologies numériques, dont certains affirment qu'elle signe l'entrée dans une nouvelle façon d'appréhender, de gérer et de transmettre le savoir. Madame Pastoureau nous dira donc si cette nouvelle technologie représente, comme le pensent certains, une menace ou plutôt une opportunité pour les bibliothèques, dont on dit souvent que l'essor est intimement lié à celui, sinon de l'imprimé, du moins évidemment au support papier. Vous l'avez compris, cette émission sera aussi l'occasion d'évoquer, au-delà de l'histoire de la bibliothèque, les défis auxquels elle a dû et auxquels elle va devoir faire face, et aussi de saisir les grands événements qui ont marqué son existence lors des 2 dernières décennies. Enfin, nous évoquerons aussi en creux la carrière de Mireille Pastoureau. C'est d'ailleurs ainsi que je souhaite démarrer cet entretien, en me permettant de poser à Mme Pastoureau une première question plus personnelle, parce que je me la pose moi-même. Que ressent-on lorsque l'on est nommé à la tête d'une telle institution et lorsqu'on franchit les portes de celle-ci pour la première fois?
Oui, alors ce que j'ai ressenti en 1993, c'est d'abord une grande timidité, parce que l'Institut, vous le savez, est une immense société savante, c'est l'élite des savants dans toutes les disciplines. Donc naturellement, j'étais très intimidée à l'idée d'avoir à les servir et de les rencontrer, mais aussi une réelle et sincère jubilation, parce que cette bibliothèque est une bibliothèque générale qui touche à tous les sujets. Et pendant les 20 premières années de ma carrière, j'avais été chargée de fonds anciens, de cartographie, qui étaient très intéressants, mais qui ne répondaient pas à une vocation chez moi. J'avais bien fait mon devoir, je crois, à la Bibliothèque nationale. Mais l'idée découvrir des centres d'intérêt que j'avais précédemment, comme la littérature... Pardon ?
Que vous avez dû laisser de côté par...
Oui, voilà, la cartographie, c'est tout à fait intéressant, mais quelquefois, je ne suis pas vraiment scientifique, même pas du tout. Donc l'idée d'avoir à conserver des fonds littéraires et artistiques et généraux, à la fois anciens et modernes, m'a rempli de ravissement.
Puis il y a le poids de l'histoire, j'imagine aussi. On le ressent déjà, oui, lorsqu'on passe devant l'Institut. Alors j'imagine que lorsqu'on pénètre dans la bibliothèque, c'est encore plus fort.
Oui, exactement. L'Institut est une maison de tradition et la bibliothèque, comme vous le dites, est fortement ancrée dans l'Institut. Dès la fondation de l'Institut, on n'a pas imaginé que les membres n'aient pas de bibliothèque. Donc on a constitué une bibliothèque en prenant à droite à gauche, notamment la bibliothèque de la ville de Paris de l'époque, en 1793. Il faut savoir que l'ancien fonds de la ville de Paris n'est pas à Paris, n'est pas à la municipalité, il a été attribué à l'Institut de France pour que les membres de l'Institut national qui venait d'être fondé en 1795, bibliothèque donnée en 1796, ils étaient tous très jeunes et ils avaient leur œuvre à écrire. Donc il leur fallait les meilleurs ouvrages et les meilleurs textes. Et voilà pourquoi cette bibliothèque est indissociable de l'Institut. Et sa grande originalité, c'est qu'elle rassemble toutes les branches du savoir. À l'image de l'Institut, elle regroupe toutes les disciplines, ce qui fait que le fonds original est pluridisciplinaire, et ce qui n'est plus le cas actuellement, naturellement. Mais donc ce fonds ancien de la fin du XVIIIe est extrêmement complet et intéressant.
Alors, ce qu'il semble, c'est que dès l'origine, la vocation de la bibliothèque de l'Institut est double. Il s'agit à la fois de conserver ces œuvres qui auraient pu être dispersées dans une période trouble de l'histoire de France, mais aussi de servir d'instrument de travail.
Tout à fait. Cette bibliothèque est avant tout au service des membres. Et ça, c'est une ligne que nous suivons de très près, parce que vous savez qu'il n'y a pas de retraite pour les membres de l'Institut, pour les académiciens. Donc, ces personnages, quand ils ont été actifs, avaient un laboratoire, une bibliothèque de travail. Bon, ils ont des bibliothèques personnelles très riches, naturellement. Mais nous prenons le relais à partir du moment où ils sont membres de l'Institut. Nous leur fournissons de la documentation, des ouvrages, et nous ne pouvons pas tout acheter, mais nous faisons prêter par d'autres bibliothèques des livres pour éviter aux académiciens d'avoir à se déplacer à la Sorbonne, à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Nous leur prêtons les livres, et la particularité de notre fonctionnement, c'est que la bibliothèque prête les livres aux académiciens en nombre illimité pour une durée illimitée. Et alors on leur demande périodiquement s'ils en ont toujours besoin, mais nous devons de leur donner des instruments de travail, parce que c'est la vocation de l'Institut depuis l'origine, de favoriser le travail des membres. Voilà.
Et de situer en dehors de l'immédiateté qui nous tenaille aujourd'hui.
Voilà, exactement. Et donc, notre premier public, ce sont les membres de l'Institut. Et il y a une grande particularité dans cette bibliothèque, c'est que le mode d'admission se fait par parrainage par les membres de l'Institut. Donc, ce sont les membres de l'Institut qui ont cette bibliothèque, c'est leur bien commun, et ils parrainent les nouveaux lecteurs. Donc, tout nouveau lecteur est orienté vers un membre de l'Institut qui lui accorde sa recommandation.
Ou non.
Oui, c'est-à-dire que oui, il y a un filtrage. Alors, si on ne peut pas admettre le nouveau lecteur, nous l'orientons vers une autre bibliothèque. On ne laisse personne sans bibliothèque, bien entendu. Mais par exemple, c'est vrai qu'il n'est pas question pour nous d'accueillir des personnes qui voudraient simplement lire. Il y a un magistrat du quartier qui, il y a quelques années, m'a dit « Madame, je viens de prendre ma retraite, j'aimerais venir lire dans votre bibliothèque ». Non, c'est une bibliothèque avant tout savante, qui n'accueille d'abord que les membres de l'Institut et comme lecteur extérieur, que des chercheurs de haut niveau qui viennent consulter des documents originaux.
Oui, il ne s'agit pas de se divertir, même de façon savante, mais bien d'être au service de gens qui produisent des choses, qui transmettent eux-mêmes les savoirs.
Exactement. Ce qui ne veut pas dire que nous n'accueillons que des lecteurs âgés, parce que nous avons aussi des lecteurs très jeunes, des étudiants, à partir de la maîtrise, à partir du moment où l'étudiant doit étudier une source originale, un manuscrit ou un livre, ou des choses qui ne se trouvent pas ailleurs, l'étudiant peut être admis à la bibliothèque de l'Institut.
Vous avez parlé de choses qui ne se trouvent pas ailleurs. Que peut-on trouver à l'Institut qui ne se trouve pas ailleurs,
voilà,
précisément?
Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, nous sommes la mémoire des membres. Donc, nous avons toutes les œuvres des membres de l'Institut, passées et présentes, tous les ouvrages critiques qui sont écrits sur eux, et bien souvent des archives qui émanent d'eux, qui ont été données par eux ou leurs descendants. Mais ensuite, il faut voir que le fonctionnement de l'Institut, qui est très collectif, est un fonctionnement qui n'est pas seulement franco-français, mais que les 5 académies de l'Institut sont en relation avec les académies du monde entier et ont des traditions d'échange. Donc nous avons un fonds spécialisé dans les productions académiques, principalement d'Europe, mais aussi du monde, d'Amérique ou même d'Asie. Et ces productions, ce qui est très intéressant, c'est que souvent elles ne se sont pas interrompues en temps de guerre, alors que la Bibliothèque nationale, qui est complète, on le sait, pour le domaine français, a des lacunes pour le domaine étranger, notamment les productions en période de guerre. Et ce n'est pas le cas de la Bibliothèque de l'Institut, parce que les savants ont continué à faire des échanges, de tirer à part, de petites brochures. C'est une bibliothèque savante qui a des livres, des périodiques, mais aussi, vous savez, de ces petits articles rares, difficiles à trouver, mais qui pour le chercheur sont extrêmement intéressants.
Oui, qui perduraient en marge des vicissitudes de la politique internationale et des jeux diplomatiques.
Exactement. La particularité de l'Institut, c'est d'être une institution savante qui traverse les régimes. C'est la raison pour laquelle l'Institut, comme beaucoup de sociétés savantes, a reçu des dons assez importants de collections, manuscrits, imprimés, mais sans doute le plus beau don que l'Institut ait reçu, c'est une collection littéraire qui concerne la période romantique française, le premier 19e siècle, qui vient d'un collectionneur belge qui s'appelait Charles de Spelberg de Lovenjoul, qui est mort en 1907, et qui, à l'image de la donation que le duc d'Aumale avait faite à Chantilly, a donné sa bibliothèque littéraire à la France, et il a voulu que ce soit à l'Institut de France. Et nous avons encore cette collection qui est absolument merveilleuse, qui concerne avant tout trois grands auteurs, Balzac, Georges Sand et Théophile Gautier. Et à titre d'exemple, il y a dans cette collection le plus grand ensemble de manuscrits de Balzac au monde. Les manuscrits des œuvres de Balzac sont pratiquement tous dans notre bibliothèque, à l'exception d'Eugénie Grandet, qui est aux États-Unis, et un roman, Les Employés, qui est à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, il y a les lettres de Balzac à Madame Onska. Il y a aussi des objets, des souvenirs, un encrier de Balzac, le service à thé de Balzac, enfin des tas de choses. C'est une collection littéraire qui a été donc donnée après coup concernant, je vous le rappelle, des auteurs qui n'étaient pas membres des académies. Mais le don de cette collection est une preuve du prestige de l'Institut et de la confiance qu'on plaçait dans l'institution.
Oui, on se dit conserver. Que quoi qu'il arrive, l'Institut perdurera.
Exactement. C'est exactement la démarche du duc d'Aumale. C'est exactement cela. Et avec un encadrement de grands savants, lettrés, qualifiés, de sages, qui sauront conserver la collection et l'exploiter, la valoriser. Ce que nous essayons de faire.
En marge de l'éventuel chaos politique et des éventuelles tentations spéculatives.
Exactement, exactement. Tout à fait, oui.
Et outre cette collection-là, il y a d'autres legs qui, je crois, ont marqué les décennies.
Oui, exactement. Alors, il faut mentionner aussi que c'est une bibliothèque qui a donc des fonds anciens. Les plus anciens documents, ce sont des papyrus de l'Antiquité qui ont été donnés à l'Académie, des inscriptions et belles lettres. Enfin, il y a les fameux carnets de Léonard de Vinci. Mais c'est une bibliothèque qui continue de recevoir des documents modernes, des archives d'académiciens. Parmi les derniers membres de l'Académie française décédé, nous avons eu les papiers de Jean Dutour, les papiers de Bertrand Poirot Delpech, Michel Mort, Michel Droit, parmi les membres vivants, actuellement Michel Déon, très souvent vient avec, c'est très émouvant, une chemise de papier qu'il a triée et qu'il nous confie, d'autres membres donnent également, qui sont encore en vie, ils commencent afin d'assurer la survie de leur collection. Et le fait de savoir que leurs papiers seront dans cet environnement qu'ils ont connu de leur vivant, où ils ont été heureux, où ils ont travaillé, ça les rassure. Quoi.
Oui, cette idée de transmission est inscrite dans l'institution elle-même, oui. Mais elle est partagée en réalité. Il y a une sorte d'osmose entre à la fois tous les membres, les différentes académies et l'institution elle-même.
Exactement. Oui, c'est une institution très originale qui a une très forte identité. Et la bibliothèque est donc le symbole de cette unité de l'Institut. À l'intérieur de l'Institut, avant la création du Salon des académiciens, il n'y avait pas de lieu commun aux cinq académies, à part la coupole, où ils ne vont que 10 à 12 fois par an. Et la bibliothèque est vraiment le lieu où les membres peuvent se croiser sur la table des nouveautés. Nous avons les livres des nouveautés des divers membres qui se côtoient sur la table. La bibliothèque est vraiment le symbole de cette fédération qu'est l'Institut, qui n'est pas toujours facile à coordonner, certainement, parce que les académies ont des intérêts, des activités différentes, des nombres différents, mais je crois que la bibliothèque est un facteur d'unité et de cohésion.
Si je ne me trompe pas, c'est une émission qui lui était confiée lors de sa création, d'ailleurs, on disait « raccorder toutes les branches de l'instruction ».
Oui, exactement. Exactement, donc c'est la raison pour laquelle ils ont constitué un fonds encyclopédique dans les dépôts littéraires. Mais il faut noter que c'est une bibliothèque qui, maintenant, nous avons des pièces bibliophiliques, des très belles reliures, des provenances, des choses. Mais c'est une bibliothèque qui a été constituée pour le texte, pour le fond, parce que les membres étaient très jeunes, il fallait qu'ils aient une documentation pour travailler. Et donc, dans les saisies de la Révolution, la bibliothèque ne choisissait pas en premier lieu. Il y avait d'abord la Bibliothèque nationale, et puis la bibliothèque Mazarine, qui étaient des bibliothèques de collection. Et ensuite, l'Institut venait. Alors, il avait des exemplaires, quelquefois un peu moins beaux, mais on a quand même retrouvé des reliures de Marie-Antoinette, de Catherine Médicis. On trouve quand
le
même des choses.
Le fond primé sur la forme.
Oui, voilà, exactement. Oui, tout à fait.
Toutefois, le temps passant, j'imagine qu'il y a des choses qu'on a acquises au départ pour le fond qui finissent aussi par prendre de la valeur.
Voilà, exactement. Alors, c'est le cas notamment du fonds de photographie ancienne de la bibliothèque. Alors, les fonds iconographiques, et en particulier les photographies, restent les fonds qui restent à décrire plus finement. Ils sont décrits par ensemble, mais on n'a pas encore fait la description pièce à pièce. Mais les photographies anciennes sont extrêmement intéressantes, notamment celles qui ont été données à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est une académie qui parrainait des expéditions archéologiques et en retour, les archéologues lui rapportaient la documentation. Et on trouve dans ces documents les photographies d'un archéologue américain qui s'appelait Green, avec un E à la fin, qui est mort à 24 ans, dont les photographies sont extrêmement recherchées par les marchands de photographies et les collectionneurs. Et elles sont pratiquement toutes dans notre bibliothèque, et des photographies d'Égypte et d'Afrique du Nord, parce qu'il avait reçu mandat de l'Académie, donc il a rendu sa documentation à l'Académie.
C'est un beau geste.
Tout à fait, oui, mais les savants sont très généreux et désintéressés.
Parmi les legs et les fonds, vous me disiez l'attachement particulier que vous aviez au fond de Paul Morand.
Oui, parce que c'est une jolie histoire. Bon, il y en a d'autres comme cela. Paul Morand a fait de l'Académie française sa légataire universelle, et son exécuteur testamentaire était Maurice Reims, également membre de l'Académie. Donc Maître Reims, qui, entre parenthèses, a été président de la commission des bibliothèques et archives pendant pratiquement jusqu'à sa mort. C'est la tutelle de la bibliothèque au sein de l'Institut. Comme l'Institut est collégial, sa tutelle est une commission d'académiciens. Voilà. Et le président est très important et est toujours membre de l'Académie française. Actuellement, c'est Madame Carrère d'Encausse qui est président. J'en parlerai tout à l'heure, si vous voulez. Donc, Maître Reims a fait en sorte que la bibliothèque de Paul Morand puisse venir à la bibliothèque de l'Institut. Alors, malheureusement, à l'époque, comme encore maintenant, il y avait des problèmes de place. Donc, il est mort en 1977, Paul Morand. Tout n'a pas été retenu, mais tout de même plusieurs centaines d'ouvrages extrêmement intéressants qui n'avaient pas été très bien décrits à l'époque. C'était entré un peu vite. Et donc, j'ai regardé tous ces livres et j'étais très, très, très intéressée de voir des livres de Paul Morand adolescent, de livres que Jean Giraudoux, qui était très ami de la famille, c'était le deuxième fils de la famille, avait dédicacé aux parents Morand. Et des livres que Paul Morand, adolescent, avait achetés en Angleterre. Voilà, tout un fond. Et après, beaucoup de livres qu'il avait reçus d'amis avec des envois autographes extrêmement amusants. Et j'ai trouvé aussi un envoi assez curieux qu'il s'était fait à lui-même. Il s'est dédié un de ses livres en disant « À Paul Morand, parce que je l'ai dans la peau ». Voilà, pour l'anecdote.
À plusieurs reprises dans vos propos, vous avez parlé de la nécessité, et c'est bien naturel, de décrire les ouvrages, les pièces qui sont en possession de la bibliothèque. On a l'impression que ça fait une grosse partie de votre travail,
oui,
celui de votre équipe.
Exactement. Alors, j'ai une équipe formidable, hein, disons-le, vraiment très active, très dévouée, très compétente. Notre fonds est difficile à décrire. Comme je vous le disais, c'est une bibliothèque savante, c'est une bibliothèque internationale, avec des livres anciens, souvent en langues étrangères. Donc, quand il faut informatiser la notice, ça signifie qu'il faut sortir le livre et refaire une notice catalographique livre en main. Donc, inutile de vous dire que ça prend plus de 10 minutes. C'est quelque chose
assez... À la fois savante et pluridisciplinaire,
oui,
ce n'est pas banal.
Exactement, voilà. Donc nous sommes à peu près à 250 000 notices informatisées dans le catalogue. Ça doit faire à peu près un tiers du catalogue des livres qui est donc informatisé. Je signale aux auditeurs qu'ils peuvent consulter le site internet de la bibliothèque, bien sûr, qui nous donne une grande ouverture, une bonne visibilité. Donc ils trouveront une partie des livres. Les manuscrits, on en a plus de 10 000, sont à peu près tous décrits, mais il faut bien voir qu'il y aura encore un travail supplémentaire à faire pour les correspondances, parce que cataloguer des correspondances, ça veut dire identifier tous les signataires de lettres dans les fonds. C'est donc extrêmement long pour le bibliothécaire ou l'archiviste. Donc tout ça n'est pas encore fait pour les correspondances. Et pour l'iconographie, il y aura encore beaucoup de travail à faire pour affiner les descriptions, mettre les images en ligne. Mais le site internet signale déjà beaucoup de choses, et Moi, la tâche principale que j'ai donnée à mon équipe a été l'informatisation des catalogues. Il m'a semblé que c'était vraiment le premier devoir de la bibliothèque, qui avait des fichiers papier difficiles à trouver, puisqu'il faut déjà obtenir une recommandation pour venir à la bibliothèque. Donc, dans l'intérêt de la recherche, je crois qu'il faut continuer d'informatiser les catalogues. Et malheureusement, je pars sans que cela soit achevé.
Mais ça ne sera jamais achevé, puisque c'est un fonds en mutation permanente. À chaque fois qu'un leg arrive, il faut reprendre.
C'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de pouvoir avoir recours à des contractuels, des agents contractuels de temps en temps pour nous aider. Nous venons notamment de recevoir le don de Gabriel Anoto, qui était un historien et un homme politique, membre de l'Académie française. Et pour ce fonds, nous avons recruté un contractuel pendant 3 mois pour donner un apport, un renfort aux conservateurs chargés du fonds. Sans cela, ça attendrait trop longtemps. Il ne faut pas que les fonds restent sans être décrits. Il faut les signaler le plus vite possible.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu davantage de cet enjeu qui était celui de l'informatisation, mais aussi des nouvelles technologies numériques au-delà de l'informatisation, l'essor d'Internet, tout ça, ça a bouleversé la vie des bibliothèques.
Exactement, toutes les bibliothèques du monde. Du reste, il faut voir qu'en corollaire, les séances de lecture baissent dans toutes les bibliothèques du monde. Il y a moins de lecteurs parce que nos auditeurs d'ailleurs le savent, on peut trouver sur Internet tout ce qu'on cherchait auparavant dans les dictionnaires biographiques, les encyclopédies. Donc tout ce public-là ne vient plus.
Donc il y a moins de lecteurs physiques, mais plus de lecteurs.
Il y a plus de lecteurs et nous travaillons pour mettre en ligne, donc nous continuons de servir le public, mais il y a moins d'échanges de personne à personne. C'est vrai que ce rôle de sociabilité que jouaient les bibliothèques, et la bibliothèque de l'Institut le jouait très fortement, mais elle ne cessera jamais de le jouer parce que c'est une bibliothèque, comme je vous le disais, où le public vient consulter des originaux. Et vous savez que le chercheur a toujours besoin de consulter un document original. Parce que quand vous y avez une image numérique sur écran, vous n'avez pas toujours l'idée du format réel de l'image, de la couleur réelle. Quand vous regardez les ratures, les annotations, vous n'êtes pas sûr. Et donc, les deux se complètent. Et nous sommes une bibliothèque de type musée, en fait. Et je crois que cette bibliothèque perdurera parce que les personnes voudront toujours voir un document original plutôt qu'une image. Donc, il faut les deux. Alors, évidemment, l'informatisation n'avait pas commencé avec moi. C'est mon prédécesseur, Madame Françoise Dumas, qui, en 1992, avait commencé l'informatisation des catalogues. Et alors, c'est amusant parce que à l'époque, c'était un système américain qui avait été adopté par les universités françaises. Et ensuite, quand Pierre Messmer est devenu chancelier de l'Institut, que je lui ai présenté la bibliothèque, je lui ai expliqué le catalogue. Et alors, ça ne lui plaisait pas du tout que nous mettions nos notices dans une base américaine. Il n'était pas du tout content. Et heureusement, le ministère de l'Enseignement supérieur français, après, a mis au point un système français dans lequel nous sommes actuellement. Et donc, maintenant, nous avons une base tout à fait française qui marche très bien. Et l'équipe de catalogage, effectivement, catalogue uniquement de manière informatisée. C'est un lieu commun de dire qu'une dame bibliothécaire qui avait arrêté sa carrière pour élever ses enfants il y a 10 ans ou il y a 15 ans doit réapprendre le métier quand elle réintègre la profession, parce que les pratiques ne sont plus du tout les mêmes. Mais ça nous aide énormément et le site internet de la bibliothèque permet de signaler beaucoup de choses. Je recommande aux auditeurs d'aller le consulter parce qu'on y indique l'histoire des fonds, les nouvelles acquisitions.
Et les catalogues sont en ligne ?
Oui, les catalogues sont en ligne, ceux qui sont informatisés. Donc un tiers pour les livres.
Donc mettons un chercheur qui se trouve à Washington aujourd'hui. Derrière son écran d'ordinateur, savoir
tout à fait.
Si... le document qu'il recherche se trouve
ici. Oui, exactement. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des modes. On a notamment un document qui appartient à l'Académie des Beaux-Arts, qui sont les carnets du peintre Édouard Vuillard. C'est extrêmement intéressant. Ce peintre a tenu un journal illustré depuis son adolescence jusqu'à sa mort en 1940. Et il a donné tous ses carnets, ils sont à l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est un document extrêmement demandé, notamment par les chercheurs en histoire de l'art américains. américain. Et nous renseignons les lecteurs à distance. On ne demande pas à tous les chercheurs de se déplacer.
Oui, bien sûr. Vous avez des statistiques de ce qui est le plus demandé au fil du temps
Alors ça, elles sont subjectives, je dirais. On a des statistiques annuelles qui figurent dans le rapport annuel. On sait que dans nos fonds, ce sont les manuscrits, les fonds de manuscrits qui sont les plus consultés. Pourquoi? Eh bien parce que, par définition, voilà, les imprimés ne sont pas uniques et notre catalogue d'imprimés n'est pas totalement informatisé. Il y a des raretés, mais tout n'est pas encore bien connu à distance, alors que le catalogue des manuscrits est à peu près complet, même s'il n'est pas toujours raffiné dans les détails, mais il est très bien. Donc c'est le fond des manuscrits qui est le plus consulté. Oui.
Vous avez utilisé le terme de mode, on voit des,
oui,
des modes.
Malheureusement, on voit des modes.
De 20 ans, est-ce que vous avez vu quelques faits saillants sur l'intérêt se déplaçant d'un siècle à un autre, d'un auteur à un autre, d'une école à une autre?
Oui, j'ai vu l'émergence de la photographie, notamment. C'est aussi un lieu commun de dire qu'il y a moins de personnes intéressées par les livres anciens, dans les bibliophiles, j'entends, et parmi les marchands, notamment. Vous savez, il y a toute une génération ancienne de marchands qui connaissaient le latin, qui collectionnaient les auteurs classiques. Et ça, on voit que c'est une pratique qui disparaît au profit de nouvelles modes, notamment de la photographie. La photographie ancienne, il y a 20 ans, était très peu cotée dans les bibliothèques, et maintenant...
Et on ne sait des ventes non plus.
Voilà, c'est tout à fait cela. Le marché des manuscrits également a changé. Le manuscrit est devenu une valeur spéculative. Certains auteurs, les grands noms, explosent en salle des ventes, et on ne peut plus acheter que des auteurs secondaires, mais néanmoins intéressants pour la recherche.
Ça vous impacte moins, car je crois que votre budget pour les acquisitions est de toute façon assez réduit. Ce qui compte, ce sont les legs.
Exactement. Les dons et legs. C'est une bibliothèque qui a une très grande tradition, aussi bien pour les livres que pour les manuscrits. Nous avons 60% environ de dons et legs dans cette bibliothèque, parce que c'est une bibliothèque qui a une forte identité. Enfin, c'est l'institution. Les personnes donnent à l'institut. Et encore récemment, il faut voir cette histoire extraordinaire des deux lettres de Descartes. Toutes les lettres de Descartes au père Mersenne, il y en avait 83, ont été données à l'Académie des sciences au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, un membre de l'Académie qui s'appelait Libri, qui était un grand collectionneur mais quelqu'un de malhonnête, a volé ces lettres. Vers 1840, il est parti en Angleterre avec, il y a eu un procès en France, il a été condamné par contumace, mais comme il n'est jamais revenu, il est mort sans être puni. Et après, ces lettres se sont trouvées dans diverses collections, et alors, coup sur coup, ces dernières années, deux nous ont été restitués à l'Institut. Ce sont des gestes très beaux. La première est venue d'un collège américain, Haverford College, sur la côte est des États-Unis, un collège Quaker, qui avait donc des valeurs. Et quand, justement, c'est Internet, quand le bibliothécaire a mis le catalogue de ses documents sur Internet, un spécialiste de Descartes a dit... fait le lien, voilà. Et quand le président du collège a appris que la provenance de cette lettre...
C'était bien mal acquis, ne profite pas, il faut le rendre.
Il l'a rendu à l'Institut, donc c'était merveilleux. On a fait une grande fête ici, franco-américaine. Et après cela, un collectionneur suisse, membre de l'Académie des Beaux-Arts, d'ailleurs un très grand collectionneur et mécène, Jean Bonnat, a également vu que dans sa collection, il avait une lettre venant du même lot. Donc, il l'a donnée à l'Institut. Et donc, à nouveau, nous avons eu une très belle cérémonie de remise de la lettre. Et troisième volet, M. Bonnat, qui est vraiment un mécène très généreux, a offert, il y a quelques semaines à l'Institut, un manuscrit de Chateaubriand qui passait en vente à Lyon, en vente publique, une lettre sur l'Institut, un texte de Chateaubriand très intéressant qui se situe en 1816, à l'époque de la Restauration, où l'avenir de l'Institut était en débat, puisqu'on voulait restaurer les académies. Est-ce qu'il fallait supprimer l'Institut? Et c'est très intéressant de voir que Chateaubriand, qui est quand même assez réactionnaire, oui, voilà, prône le maintien à la fois de l'Institut et des académies, ce qui a été fait, ce qui est très compliqué à comprendre pour le grand public, d'abord, d'ailleurs. Mais donc c'est un manuscrit extrêmement intéressant qui nous a été donné par un mécène.
Oui, et dont il était question, je précise, sur l'antenne de Canal Academy avec le chancelier de Breuil.
C'est parfait, c'est très voilà. bien.
Effectivement, c'est une pièce historique d'intérêt majeur, puisqu'elle a certainement contribué à sauver l'Institut.
Oui.
Et
oui.
Cette volonté de raccorder toutes les branches du savoir,
voilà.
si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. On voit qu'il y a une compréhension profonde de l'institution oui, et de sa mission.
Alors, puisque nous arrivons non pas tout à fait à la fin de ces missions, mais il faut maintenant se projeter vers l'avenir de la
oui,
bibliothèque. Mais
oui.
votre mission n'est pas tout à fait terminée, si j'ai bien compris, puisque des projets qui vous tenaient et vous tiennent toujours particulièrement à cœur sont en cours de réalisation. Pouvez-vous nous dire
oui,
lesquels ?
Oui, c'est un très beau projet que nous devons... Alors, on ne dira jamais tous les bienfaits que le chancelier Gabriel de Breuil a procuré à la bibliothèque. Et avec lui, Madame Carrère-Dancos, présidente de la commission des bibliothèques, à eux deux, vraiment, ils ont énormément soutenu la bibliothèque ces dernières années. Madame Carrère-Dancos, qui était universitaire, qui a soutenu la documentation et animé la commission des bibliothèques pour donner beaucoup d'énergie. Et Monsieur de Breuil, qui, vous savez, est bibliophile, président de l'association des bibliophiles François, qui connaît très bien l'histoire du 19e siècle et qui aime beaucoup les fonds anciens. Donc, il nous a apporté la détection incendie, il a refait les fenêtres, il a obtenu d'un mécène anonyme un plan de restauration des reliures précieuses. Donc, vraiment beaucoup de bienfaits. Et parmi donc les avantages, nous allons faire un petit musée à la bibliothèque dans deux salons, deux salles qui sont situées entre la bibliothèque et la coupole. Car il faut savoir que dans cette maison pleine de rituels, lorsque les académiciens ont une séance sous la coupole, eh bien, ils se réunissent d'abord à la bibliothèque, qui à cette occasion est fermée au public, et ils descendent par un passage qui leur est réservé. Donc ils traverseront ce petit musée et descendons l'escalier sous les roulements de tambour de la garde républicaine. Donc dans ces deux salles, nous allons mettre une première évocation de la collection littéraire dont je vous parlais, Spellberg de Löwenjoul, avec tous ces souvenirs littéraires de Balzac, Georges Sand, Théophile Gauthier, et également une deuxième salle évoquant l'histoire de l'Institut avec des épées, le costume, les premières salles de réunion, les académies sous l'Ancien Régime, les jetons de présence en argent que Colbert a institué à l'époque de Louis XIV. Nous avons tout ça. Et puis des beaux livres anciens de la bibliothèque pour montrer l'origine des fonds, justement, cette origine républicaine, ces saisies révolutionnaires. Donc, il fallait faire beaucoup de travaux dans ces petites salles. Le gros œuvre est en train d'être achevé. Et je suis très heureuse de consacrer environ 2 mois au choix des œuvres, à la sélection et à la mise en place dans les vitrines avant l'été, j'espère.
Puisque vous parliez de ce rituel qui consiste à passer d'abord par la bibliothèque avant de se rendre sous la coupole, cela me rappelle que vous avez été à l'initiative d'un autre élément qui vient enrichir ce rituel, celui qui consiste à placer sur le cheminement des nouveaux académiciens, des ouvrages, des périodiques ou des
oui.
objets qui rappellent leurs prédécesseurs.
Oui, effectivement.
Dans le fauteuil qu'ils
oui,
vont occuper.
Oui. Ah oui, la généalogie des fauteuils à l'Académie française est très importante. Et vous savez, les livres ou les documents, il ne faut pas en parler, il faut les montrer. Donc, chaque académicien, lorsqu'il est installé sous la coupole, lorsqu'il est reçu, donc, vient dans la bibliothèque, ses confrères l'y attendent et il trouve sur les tables, la bibliothèque est en longueur, une évocation de tous ses prédécesseurs à partir de celui qui a eu le premier fauteuil. Donc, ça peut être des livres, des manuscrits, des médailles, des gravures, des dessins. Voilà. Et donc, selon les fauteuils, il y a eu entre 15 et 25 titulaire. Donc c'est variable. Voilà, donc il chemine, il regarde, il voit les grands noms qui l'ont précédé ou les inconnus, puisque dans le chauffeur, il voit la diversité aussi, puisqu'il n'y a pas de thème dans les fauteuils de l'Académie. Et voilà, il chemine et il voit son prédécesseur direct, dont il va faire l'éloge après. Et je pense qu'il se dit que ben, les livres qu'il nous donne, voilà, ça viendra quand il sera mort, à nouveau, il y aura un titulaire de plus dans le fauteuil, et la tradition perdurera. Et donc ça donne lieu à un petit catalogue. Les auditeurs pourront trouver les petits catalogues en ligne sur le site de la bibliothèque. Ça s'appelle Archives des expositions dans la partie actualité. Et donc depuis que le site internet existe en 2005, j'ai traité une vingtaine de fauteuils. J'ai eu le temps de faire la moitié. Donc l'académie s'est renouvelée de moitié en 20 ans, en gros. Enfin non, en 10 ans, depuis 2005. Voilà.
C'est très beau cette façon d'inscrire les nouveaux venus dans une lignée et qu'ils soient accueillis non seulement par leur père vivant, mais également par ceux qui sont décédés, c'est d'une énorme force.
Oui, c'est l'esprit de la maison, exactement. Et ils sont très attachés, les académiciens sont attachés à cette tradition.
On est vraiment dans la transmission et dans le legs et la volonté de faire perdurer. Alors justement, vous, à votre poste, quelles sont les ambitions que vous nourrissez pour la bibliothèque après même votre départ? Parce que j'imagine que vous en avez. On ne se détache pas d'une institution comme celle-là.
Non, c'est impossible. Bon, je crois qu'on ne peut pas changer brutalement. Mon successeur aura certainement de bonnes idées nouvelles. Si je peux former des vœux, c'est qu'elle continue de recevoir beaucoup de dons, comme qu'elle l'a fait, parce que les personnes sont heureuses de trouver une institution de confiance où tous les documents puissent être rassemblés, à la fois livres, imprimés, nous, le lecteur a tout sur sa table en même temps. À la Bibliothèque nationale, il faut aller à Tolbiac pour les livres, il faut aller au manuscrit rue de Richelieu, c'est différent. Donc c'est une petite institution qui a son créneau. Nous ne voulons pas faire concurrence aux autres institutions. Et puis peut-être des renforts pour le catalogage informatisé, pour donner du courage à l'équipe, lui remonter le moral, parce que c'est un peu le tonneau des Danaïdes.
Deux tiers qu'il reste encore à décrire.
Oui, exactement. Oui, plus les nouvelles arrivées. Voilà. Puis c'est-à-dire que recevoir des archives, c'est aussi très long à trier, à traiter. Ça prend du temps. C'est une équipe de 18 personnes, y compris tout le monde. Il faut servir les lecteurs dans la salle, il faut ranger dans les magasins. Voilà. Mais les problèmes de place, j'aime pas trop les évoquer. Ils sont communs à toutes les bibliothèques, à tous les Parisiens, toutes les personnes qui ont des livres. Voilà, mais bon, nous avons un dépôt en banlieue à Marne-la-Vallée avec 6 km de rayonnage. Il y a 50 000 livres scientifiques anciens en dépôt à la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette. Donc tout ne peut pas être conservé sur place, mais il faut gérer tout ça. La bibliothèque tiers qui est rattachée à la bibliothèque de l'Institut. Donc voilà, c'est un peu une nébuleuse. Mais je crois que nos lecteurs sont satisfaits, globalement. C'est l'essentiel.
La bibliothèque, c'est donc un instrument d'avenir, encore aujourd'hui, à la fois pour le travail et...
Les personnes que je vois venir à la bibliothèque, y compris moi-même maintenant que je travaille dans la salle de lecture, je crois, n'imaginent pas se passer de la bibliothèque. C'est un endroit formidable, qui est très calme, serein, où on peut travailler, où les idées viennent. Mais moi, dans cette maison, je sens le souffle de l'esprit. Ça doit être le souffle de l'intelligence. J'ai senti, dès que j'ai franchi la porte, c'est de se dire que dans cette salle de lecture, tous les académiciens passés ont travaillé, que Littré a fait son dictionnaire. Ils ont tous écrit leur œuvre dans ces murs, sur ces tables. C'est inspirant.
Et ça le restera certainement pour de longues décennies et même au-delà. Je vous remercie beaucoup, Marie Pastoureau. C'était une très belle émission. Je vois que vous êtes émue, mais nous le sommes tous en réalité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est très gentil. Merci. Thank you.